Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail. Bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Donc aujourd'hui, on reçoit Joëlle-Anne Trudel, qui est infirmière, qui va venir nous parler un petit peu de son métier.
Allô!
Je suis toujours accompagnée de ma collègue Natacia.
Donc, on peut commencer déjà avec la première question. On aimerait savoir, là, en entrée de jeu, en quoi consiste ton métier, lié un peu à la vision des autres versus la réalité. Qu'est-ce que c'est réellement ton métier?
Ben c'est ça, le métier d'infirmière, vision des autres. Les gens, ils se font souvent une idée de la profession infirmière que c'est, ben l'infirmière est le bras droit du médecin, puis qu'on travaille avec des gens malades dans les hôpitaux. La réalité, c'est que le travail d'infirmière, c'est très, très varié. C'est des tâches super diversifiées dans des milieux de travail, encore là, vraiment nombreux. C'est une profession qui est à part entière. Il y a beaucoup d'options d'emploi dans plein de milieux, puis ça permet d'être en contact avec plusieurs types de clientèle de tout âge, atteint de divers problèmes de santé. Pour mettre la table, je m'étais dit, il y a quand même plusieurs types d'infirmières, puis je m'étais dit, on pourrait peut-être les passer rapidement en ordre de formation. Donc, premièrement, il y a les infirmières auxiliaires. Donc, infirmière auxiliaire, là, c'est la formation, c'est un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles qu'on peut acquérir là, après la cinquième année du secondaire. Les infirmières auxiliaires travaillent quand même dans les hôpitaux et également dans les CLSC. Ils appliquent des soins, des techniques de soins, mais toujours sous la supervision d'une infirmière. Donc, ils peuvent prendre en charge des patients, mais l'infirmière reste toujours responsable de son patient. Ensuite, on a l'infirmière technicienne. Donc le nom le dit, là, c'est une infirmière, là, c'est un diplôme d'études collégiales. Donc, c'est une technique de soins de 3 ans au cégep. Ça existe juste au Québec, évidemment. Là, au Canada, ça n'existe pas parce que les cégeps n'existent pas ailleurs au Canada. Les techniciennes peuvent aussi travailler dans des milieux super variés. Ils peuvent évaluer l'état de santé puis prodiguer des soins et traitements, mais sont limités un petit peu au niveau des postes qui sont offerts parce qu'il y a certains cours qui ne font pas, qui sont juste vus au bac. Puis là, ben, ça m'amène justement à l'infirmière clinicienne. Ça, c'est mon titre à moi. Donc, infirmière clinicienne, c'est un baccalauréat à l'université. On a une ouverture sur des postes un peu plus grands parce qu'on va avoir des cours sur des milieux vraiment plus spécialisés comme les soins critiques, puis surtout dans les CLSC. Quelques infirmières techniciennes peuvent travailler en CLSC, mais c'est les postes offerts, c'est surtout pour les infirmières cliniciennes parce qu'on a des cours là vraiment plus axés sur l'évaluation de l'état de santé pour coordonner des soins puis participer à certains projet. Fait que ça, c'est lié plus au CLSC. Sinon, il y a les infirmières conseillères. Donc, conseillères, ces infirmières-là souvent vont aller refaire une spécialisation dans un milieu spécifique. Donc, soit la pédiatrie, les soins critiques. Il y en a qui travaillent aussi en postnatalité, les conseillères en lactation qu'on dit là, pour l'allaitement. Donc, ces filles-là vont aller refaire soit un certificat ou une maîtrise là, pour être conseillère, mais c'est ça, ils travaillent vraiment dans un seul milieu. Puis, finalement, on a les IPS, infirmières praticiennes spécialisées, communément appelées les super infirmières. Les super infirmières travaillent surtout en GMF, mais il y en a de plus en plus dans des domaines spécifiques aussi. Donc, il y a des domaines qui ont ouvert dans la pédiatrie, la psychiatrie, la néonatalité. La majorité au Québec, pour l'instant, sont surtout dans les GMF. Pour être infirmière praticienne spécialisée, il faut retourner faire là, une maîtrise d'environ 2 ans à temps plein et 3 ans à temps partiel. Là. C'est une formation qui est intense, assez poussée. Ça leur permet d'aller là, faire des diagnostics puis prescrire certains médicaments puis des examens. Travaillent toujours en relation avec le médecin, mais ils ont quand même vraiment plus d'autonomie et de droits là, envers leurs patients.
Super. Donc, en fait, ce que je me demandais, c'est, tu as nommé le GMF. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, GMF, en fait, c'est un diminutif pour groupe de médecine familiale. Donc, en fait, tout ce qui est les cliniques médicales.
Tu as parlé de soins critiques. Qu'est-ce que ça consiste exactement?
Quand on parle de soins critiques, c'est des patients qui sont majoritairement intubés, donc tu sais qui ont un tube puis une machine qui les aide à faire respirer, qui sont collectés à beaucoup d'appareils, donc il y a beaucoup de gestion. Les infirmières se retrouvent à gérer maximum 1 à 2 patients, tu sais tellement qu'il y a beaucoup de choses à gérer sur le patient là. Donc c'est pour ça que les techniciennes sont pas aptes, là, comme je disais, à s'occuper de ces patients-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la formation là pour s'en occuper. Les milieux pour travailler dans les urgences aussi, les urgences sont considérées comme des milieux de soins critiques parce que tu sais on peut recevoir toutes sortes de patients.
Pour ce qui est de l'infirmière praticienne, dans le fond, qui a sa maîtrise, tantôt tu as parlé qu'elle faisait des diagnostics. C'est quoi le type de diagnostic qu'elle peut faire?
C'est des diagnostics de maladies vraiment plus communes, tu sais, diabète, cholestérol, hypertension, c'est sûr que là, c'est des mots que peut-être certaines personnes connaissent pas. C'est vraiment des problèmes de santé plus courants. Donc, ces filles-là vont vraiment faire des études là, pour les problèmes de santé qui sont plus communs, général. Puis, ils peuvent les prendre en charge, peuvent les suivre. Tout ce qui est aussi évaluation de la progression de l'enfant. Pas que c'est pas compliqué, ça peut être compliqué, mais ça peut aussi être simple puis général.
Toi, en fait, tu travailles dans quel secteur exactement?
Actuellement, je travaille dans le secteur des soins à domicile. Donc, je suis du côté du CLSC. Je travaille majoritairement avec les patients à la maison ou je travaille à l'urgence dans le côté de Portneuf, donc Saint-Raymond-Saint-Marc, dans les deux secteurs.
Ton parcours, en fait, scolaire et professionnel, ça ressemble à quoi?
Donc là, mien, en fait, moi, j'ai fait mes sciences nature au cégep parce que à la fin de mon secondaire 5, je savais pas du tout dans quoi je voulais m'en aller encore. Fait que, comme beaucoup de gens, j'ai voulu m'ouvrir toutes les portes. Fait que j'ai fait mes sciences nature au cégep. Puis par la suite, j'ai appliqué pour le baccalauréat en soins infirmiers, donc formation de 3 ans supplémentaires à l'université, qui m'a mené à mon diplôme. Par contre, je me suis dit que j'allais parler des autres options là qu'il y avait au niveau de parcours professionnel parce qu'il y en a beaucoup de filles que pour être infirmière passent par le DECBAC, c'est-à-dire qu'ils vont faire une technique de soins de 3 ans au cégep, puis ils vont poursuivre leur formation pour avoir leur baccalauréat à l'université. Donc, eux autres, par contre, vont faire seulement 2 ans d'université. Ça revient au même en termes de nombre d'années, c'est 5 ans. T'sais, moi, j'ai fait 2 ans de cégep, 3 ans d'université. Les filles qui font leur technique, ben, ils font 3 ans de cégep, 2 ans d'université. J'ai tenté 2 maîtrises. À la fin de mon parcours professionnel, je me suis dit, j'avais comme encore le goût d'être aux études. Je me suis dit, il y a la maîtrise en gestion des soins infirmiers. Donc, j'ai voulu poursuivre là-dedans, voir où est-ce que ça m'amenait pour avoir un poste vraiment plus de gestionnaire. Par contre, après une journée d'observation, les cours, je me suis rendu compte que ça m'éloignait énormément de mes patients, ce que j'aime vraiment le plus de mon milieu, là, t'sais, le contact avec les gens, prendre soin des gens. Ça me mettait vraiment sur un poste, c'est ça, de gestion. Donc oui, gestion des employés, contact avec les employés, mais ça m'éloignait trop de ce que j'aimais vraiment. Finalement, après 3 ans de pratique comme infirmière, j'ai pu appliquer sur la maîtrise IPS, là, comme on a parlé tantôt, super infirmière. Donc j'ai appliqué, puis j'ai été acceptée là, en fait, à l'Université de McGill là, dans ce programme-là. Par contre, après une session, un petit peu même principe, ça ne ressemblait pas à ce que je voulais être dans le fond dans ma carrière. Ça ne ressemblait pas à ce que je voulais, à ce que j'aspirais à être. Je suis une fille qui aime vraiment beaucoup l'action. J'aime que mes journées soient vraiment pas pareilles. Puis pour moi, IPS, je voyais ça vraiment comme des journées peut-être plus typiques, routinières. Oui, c'est varié parce que tu vois beaucoup de clientèle. Par contre, ça m'amenait à travailler, comme je disais tantôt, dans les groupes de médecine familiale, clinique de médecins, dans un bureau, à passer des patients toute la journée. Fait que ça me rejoignait vraiment moins. J'avais soif d'apprendre, puis les cours, c'était super intéressant. Mais tu sais, pour être IPS, il faut que tu veuilles être IPS. Puis moi, ce que je voulais, c'était un nouveau défi. Fait que c'était pas tout à fait la même chose parce que c'était un gros investissement ce cours-là. Fait qu'après une première session, je me suis dit c'est pas ça que je veux, puis je pense, tu sais, ça mérite pas cet investissement-là. Donc j'ai décidé de retourner à mes patients.
Pour continuer, t'en as parlé un petit peu, le contact client, contact patient qui est super important pour toi, mais de façon générale, veux-tu préciser un peu qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine-là?
J'ai toujours voulu travailler en santé parce que j'adore les gens, le contact, je suis sociable, j'aime prendre soin des gens. Quand je suis rentrée au cégep en sciences nature, je visais plus la réadaptation. Donc, tout ce qui est physiothérapie, ergothérapie, c'était comme domaine de la santé, mais plus réadaptation. À la fin de mon parcours, il y a eu la fameuse Cotter qui est entrée en ligne de compte, qui a fait que ces programmes-là n'étaient plus accessibles pour moi. Au plus profond de moi, j'avais 2 amis qui étaient dans les soins infirmiers, puis j'étais comme, hey, ça a l'air vraiment intéressant. Puis, tu sais, je commence à en parler à mes proches, mais tu sais, tout le monde me disait, ah ben voyons, Joe, les horaires, puis travailler ses chiffres une fin de semaine sur deux. Ton rêve, c'est d'avoir une famille. Cet employé, c'est vraiment pas convivial pour conciliation emploi-famille, tu sais. Fait que j'avais une réticence, mais j'ai finalement quand même été faire la visite du pavillon des soins infirmiers à l'Université Laval, puis j'ai eu une révélation, là. Je suis vraiment tombée en amour, là, avec la visite que j'ai eue, puis qu'est-ce que la profession avait à offrir. Puis j'ai tout de suite fait mes demandes d'admission, puis j'ai été admise là, heureusement.
Est-ce que ton regard sur justement la conciliation travail-famille que permet ce métier-là a changé versus avant, si tu avais une petite crainte peut-être, est-ce que ton regard a changé ou ça risque que c'est sensiblement pareil?
Mon regard a changé dans le sens que quand tu es infirmière, tu aimes tellement ce que tu fais que tu adaptes ta vie Ben, je veux pas dire que tu adaptes ta vie en fonction de ton travail, mais un petit peu aussi. Je pense que fonction d'adapter t'sais, ta vie de couple et ta vie familiale en fonction de tes corps de travail puis de ton poste de travail. Donc pour moi, là, ça rapidement, c'est ça. J'aime tellement ce que je fais que j'ai changé de vision là, par rapport à ça sur bien des affaires.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de à quoi ça ressemble une journée type dans ton travail et ça serait quoi les défis quotidiens que tu aurais là?
Mais tu sais, de manière générale, là, une journée comme infirmière, ben, c'est sûr que tout tourne autour là, des soins puis des suivis qu'on fait avec des patients de tout âge. Tu sais, quand je parle de soins, c'est sûr, c'est très, très large, là. On touche quand même à beaucoup de choses. Tu sais, changement de pansement, administration de médicaments intraveineux. On fait des suivis, tu sais, des patients qui ont des appareils comme des sondes urinaires pour les aider à uriner, des stomies, donc, tu sais, qui ont des problèmes au niveau des intestins. On fait des évaluations puis des suivis avec des patients qui ont des problèmes cardiaques, pulmonaires, des patients qui ont des cancers, évidemment. Beaucoup de suivi de clientèle, c'est les personnes âgées qui ont des problèmes là, cognitifs. Donc, tu sais, tout ce qui est Alzheimer. On fait des suivis, là, tu sais, ceux qui ont peut-être plus des problématiques de comportement en lien avec leurs problèmes cognitifs. On est apte à aller évaluer puis mettre en place certaines choses pour aider les familles là, à évoluer au travers de ça puis que ce soit plus vivable. Mais je vais y aller plus spécifiquement, là, tu sais, au soutien à domicile, comment ça fonctionne. C'est sûr que les journées sont beaucoup du lundi au vendredi de 8 à 4. C'est sûr que ça tourne beaucoup autour de ça. Pour ma part, on fait quand même une fin de semaine sur 4. Une fin de semaine sur 4 à une fin de semaine sur deux, ça dépend. Quand on arrive le matin à 8 heures, on a une route préétablie à faire qui a été établie la veille là, par la chef d'équipe. Donc, j'ai, mettons, une liste de patients qu'il faut que j'aille voir à leur domicile avec des soins à faire. Normalement, une infirmière a plus ou moins 5 à 6 patients à voir par jour. Ça dépend vraiment des soins qu'on fait, évidemment. Il y a certains soins qui peuvent prendre 5 minutes. T'sais, une injection de médicaments, ça peut prendre 5 minutes. Comme une grosse évaluation de suivi, ben, ça peut prendre jusqu'à 1 heure là, et plus. Donc, l'avant-midi, on est sur la route. Donc, je pars avec ma liste de patients, je vais avec ma voiture chez les gens, j'ai les adresses, donc je fais mes soins, puis je reviens au CLSC par la suite. Puis de manière générale, l'après-midi, je fais mes suivis, j'appelle si j'ai des suivis à faire avec des médecins, des démarches à faire, je fais mes notes aussi au dossier parce que comme infirmière, là, il faut qu'on compile là, tout ce qu'on fait là, au niveau légal. Donc, je fais mes notes là et tout. Puis on finit ben, vers plus ou moins 4 heures. Donc, ça c'est au soutien à domicile. Au niveau des urgences hôpitaux, c'est sûr que là, on parle plus de chiffres, les fameux chiffres. Donc, on travaille plus, ben, c'est soit de 8 à 4, de 4 heures à minuit ou de minuit à 8 heures le matin. Donc, 3 chiffres, jour, soir, nuit. Quand on arrive sur notre chiffre, là, que ce soit le matin, le soir ou la nuit, ben, tu prends le rapport en fait de l'autre infirmière qui était là avant toi. Parce qu'en fait, toi, dans les hôpitaux, les urgences, on prend en charge des patients. Donc, il y a des patients qui sont alités, qui sont couchés, puis tu les prends en charge. On va dire que tu as 5 patients. Donc là, tu prends ton rapport de ces 5 patients-là à l'autre infirmière. Puis après ça, tu peux mieux planifier ta journée, tu vérifies son dossier, qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui est prescrit peut-être à faire par le médecin. Puis tu planifies une journée là, ou une soirée ou une nuit avec ça. Puis ben, le reste du chiffre, c'est sûr qu'il va aller selon les besoins du patient, ce qui va être prescrit à nouveau, puis ben, les imprévus. Parlant d'imprévus, ben c'est ça, il y avait la question des défis. Beaucoup les imprévus. C'est sûr que dans les hôpitaux avec des patients qui souvent sont malades, ben on arrive puis il y a souvent des imprévus. Donc ça amène à être quand même débrouillard puis à se réorganiser là, dans notre journée ou soirée. Sinon, beaucoup de clientèle des fois qui veulent peut-être pas s'impliquer, qui refusent les soins. C'est eux sont nous on veut quelque chose de ce patient-là on pense que ce serait mieux pour lui, mais ce patient-là il veut pas parce que lui il trouve que peut-être que c'est pas pour lui. Fait que beaucoup des fois de communication là à faire pour ça. Plus en plus de patients sans médecin de famille au Québec, malheureusement, c'est quand même une réalité là à laquelle on fait face. De plus en plus d'infirmières praticiennes spécialisées, par exemple, pour les prendre en charge un petit peu, mais quand même, ça fait que les suivis avec les patients sont vraiment plus difficiles, là, vu qu'on n'a pas de médecin à qui faire affaire. Parce que, tu sais, oui, comme infirmière, moi, je vais évaluer mon patient, j'ai une situation X, j'évalue et tout, mais tu sais, si j'ai besoin d'un suivi médical, ben oui, il faut que je parle à un médecin pour faire prescrire des choses, faire changer des choses. Puis, si le médecin n'est pas rejoignable, ben là, ça m'amène à un petit problème. Sinon, ben l'utilisation des fax, ça fait quand même qu'il y a des fois des délais. Puis malheureusement, il y a des papiers qui se perdent. Puis là, ben après 3 jours, t'as comme pas entendu parler de titre de ton fax que t'as envoyé. Là, tu le renvoies ou t'appelles là-bas. Ah, ben je l'ai jamais reçu. Bon. Donc, des fois, problème de communication, malheureusement, ça commence à évoluer, mais quand même, là, des fois, ça amène des petits retards.
Est-ce que vous faites face aussi en CLSC aux heures supplémentaires, tu sais, que les infirmières font face dans les hôpitaux, je dirais, réguliers?
Oui, certainement. Dans les derniers temps, dans la dernière année, beaucoup. Évidemment, avec la COVID, là, on peut pas se le cacher, là, ça a été une grosse année, là, pour le domaine de la santé. Donc oui, pour ma part, là, même au soutien à domicile, il y a certains corps de travail qu'on fait de soir. C'est des médicaments qu'il faut que soient administrés. Des soins qu'on est obligé, finalement, de faire le soir. Donc il y a quand même des gens qui sont de garde, là, souvent jusqu'à 22 heures. Par exemple, avant de tomber enceinte, je faisais beaucoup de corps de 12 heures aux soins à domicile. Donc je faisais du 8 à 8. Je faisais un 4 heures de temps supplémentaire pour faire quand même mes patients de jour, mais je pouvais quand même faire certains soins le soir quand même, là, pour que les patients aient leurs soins, là, c'est sûr, là, de soir, même s'il manquait de monde. Donc non, il y en a quand même en CLSC.
Dans un autre ordre d'idée, qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton travail?
Le contact avec les patients. Contact, mais pas juste avec les patients, oui, mais aussi avec les autres professionnels de la santé. Ce que j'aime beaucoup, justement, là, de ma profession, c'est que je peux toucher à tout, puis je suis en contact avec d'autres professionnels qui ont des tâches vraiment spécifiques, là. Tu sais, je parle de travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, techniciennes dans l'éducation spécialisée. Tu sais, on est beaucoup en contact avec d'autres, puis les médecins, évidemment, là. Médecins que de plus en plus, la communication, ça va bien avec eux, puis qui sont, tu sais, ils savent qu'ils sont dépendants de nous, parce que nous, on va, mettons, surtout soins à domicile, tu sais, c'est nous qui va aux patients, qui se déplacent chez les patients. On évalue le patient pour eux, tu sais, prescrive les choses pour le patient en fonction de notre évaluation. Donc, la communication là, avec eux est super importante. Mais c'est sûr que tu servis au patient. Tu sais, moi, une bonne partie de ma paye, là, c'est quand c'est essentiel au patient. Donc, tu sais que le patient, il a besoin de toi, tu sais, mettons, pour rester à domicile. Puis, le fait qu'il est content après de tes soins, ça, c'est une grande partie de ma paye, là.
Depuis le début, tu parles souvent d'évaluation, mais c'est quoi concrètement une évaluation patient?
Ça dépend, c'est sûr, du problème de santé des patients. Tu sais, souvent, quand j'arrive chez mon patient, surtout à la maison, quand j'arrive, je sais ce que mon patient a comme problème de santé. Donc, si on y va avec un problème cardiaque, par exemple, tu sais, moi, j'ai des cours spécifiques pour l'évaluation de chaque système, on va dire, du corps humain. Tu sais, système cardiaque, système pulmonaire, tu sais, le système intestinal, système osseux, puis tu sais, j'en passe, mais on a des cours là pour ça, pour ce qui est de l'examen clinique de chaque système. Donc, ben, si j'arrive puis que le patient, il a des problèmes cardiaques, ben j'axe sur le cœur. Donc, tu sais, surtout sur les signes vitaux, tu sais, s'il y a des signes d'essoufflement, de l'édème aux membres inférieurs, tu sais, l'enflure plutôt, là, tu sais, pour être plus commun. On a vraiment une formation, là, pour chaque organe du corps humain.
Pour continuer un peu dans le même ordre d'idée que tantôt, là, on a parlé de qu'est-ce que tu appréciais dans ton travail. En fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ce métier-là?
Je le savais un peu en me lançant dans la profession, tout le monde me l'avait dit, mais tu sais, c'est sûr que les horaires instables, ça reste la grosse réticence peut-être envers le domaine de la santé. Puis même si je le savais, c'est sûr que ça fait peur pareil, parce que tu sais, quand t'es engagé dans un certain milieu, tu vas pas nécessairement travailler sur le corps de travail qui te tente et sur la fin de semaine qui te tente et dans le milieu qui te tente. Le placement est pas très, très difficile, mais ça reste que tu choisis pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, t'appliques pour un hôpital, on va dire, le CHUL, mais le CHUL, il va t'envoyer où est-ce... Oui, il va selon les préférences, mais il va aussi surtout selon ses besoins. Donc, c'est sûr que ça reste qu'on a des horaires un petit peu instables, tendance à varier, oui, avec le temps supplémentaire comme on a parlé tantôt, mais comme j'ai un petit peu dit, tu sais, si t'aimes la profession, on s'adapte sur les chiffres, puis ça vient que ça nous dérange plus, puis on est habitué, mais ça reste que c'est à considérer. C'est sûr que si on se lance dans la profession d'infirmière, ben faut pas que tu t'attendes à avoir du lundi au vendredi de 8 à 4. Le permis de l'ordre, parce que tu sais, les infirmières, là, en fait, on est régi par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. T'sais, à la fin de notre formation, on a un examen à faire pour avoir notre titre. Puis j'ai un permis d'infirmière que je dois payer à chaque année. Donc, c'est quand même, mettons, cette année, ça m'a coûté aux alentours de 460 $ pour mon permis. Ça tourne autour de ça à peu près à chaque année. Puis c'est non remboursé là, par la majorité des employeurs. Donc, c'est quand même à considérer. Puis il y a quand même une petite somme à payer pour le permis de stagiaire durant toutes les années d'études. C'est pas ça à la hauteur de ce montant-là, là, vraiment pas, mais quand même, je trouvais que c'était à considérer là, avant de se lancer là-dedans.
Quelles sont les principales qualités pour exercer la profession d'infirmière selon toi, puisque là, selon ce que tu observes aussi dans le milieu?
On fait face souvent à des changements de situation non prévues, donc débrouillardise, parce que, tu sais, ben surtout comme je dis, sur la route, c'est sûr que dans les hôpitaux, t'as toujours quelqu'un à côté de toi, t'as tout le temps un médecin à qui te référer s'il y a quelque chose. Sur la route à la maison, ben c'est toi avec toi-même puis ton patient. Oui, tu peux appeler une collègue, mais elle est quand même pas à côté de toi, elle est à distance. Donc, débrouillardise, évidemment. Ouverture d'esprit, parce que on est en contact avec des clientèles multiples, plein de milieux culturels, qui ont des façons de vivre vraiment différentes. Donc, vraiment être ouvert d'esprit en fonction de ce que, comment que eux vivent versus nous, l'idéal qu'on leur demande, mais versus eux dans leur milieu, comment ils peuvent l'appliquer. Donc, je trouvais que c'est important. Sinon, l'autonomie, évidemment, là, ça revient un petit peu à la débrouillardise, mais c'est sûr, être capable de s'organiser un petit peu par soi-même. Confiance en soi, parce que c'est ça, encore une fois, si t'es prise, là, toute seule à domicile avec un patient qui est en arrêt cardiaque, là, je vais extrême, mais ça arrive. Ben, faut que tu te fasses confiance, là, quand même sur tes capacités puis ce que t'es capable de faire. C'est confiance aussi envers les patients. Puis envers les autres professionnels, là, évidemment. Le lâcher prise. Celui-là, je finis par lui parce qu'il est très important. Tu sais, souvent, justement, là, tu veux tomber quelque chose pour un patient, tu vas faire toutes les démarches puis tous les suivis pour ce patient-là. Tu vas t'investir tout ton après-midi, là, pour ce patient-là, pour qu'il y ait un soin X. Puis finalement, tu l'appelles à la fin puis il refuse. Mais ça arrive, tu sais, fait qu'à un moment donné, le patient reste en droit de sa personne et de ce qu'il veut dans la vie. Ben, il faut lâcher prise parce que c'est son droit puis c'est ce qu'il veut, donc voilà. Mais des fois, c'est dur parce que c'est contre notre nature de vouloir aider puis vouloir tout faire pour le patient, mais lui veut pas puis c'est vraiment son droit, donc voilà. Fait que ça amène à lâcher prise.
Ça peut même faire partie aussi des défis quotidiens. T'sais, ben, c'est peut-être pas quotidien, mais ça peut faire partie des défis là, que tu peux rencontrer justement avec les patients qui ne veulent pas, en bout de ligne, là, s'investir finalement dans la démarche.
Oui, effectivement.
En fait, tu dirais que ton métier est lié à quelle valeur importante pour toi?
Je dirais l'altruisme, parce que c'est sûr que demain on veut prendre soin des autres. C'est pourquoi je pense qu'on s'enligne là dans cette profession-là. La compassion envers les patients, l'empathie, l'advocacy. C'est sûr, j'irai pas en détail dans ce mot-là parce que c'est un mot très large qu'on voit là beaucoup dans nos formations, mais c'est vraiment l'essence du travail des milieux de soins. Tous les professionnels de la santé là, on apprend là ce que veut dire ce terme-là, qui est une valeur là en gros. Mais tu sais, de manière générale, c'est travailler pour avoir le meilleur pour le patient.
T'en as un petit peu parlé là au cours de l'entrevue. J'imagine que c'est vraiment dépendamment aussi des milieux de pratique, les différents milieux. Mais en termes de proportion, est-ce que tu considères que la profession d'infirmière est plus liée au travail solitaire ou au travail d'équipe?
C'est sûr que c'est majoritairement en équipe, surtout dans les hôpitaux, où on appelle ça en dyade. Donc, l'infirmière a à sa charge, bon, c'est ça, j'ai dit à peu près 5 et plus, là, patients, mais avec l'infirmière auxiliaire. Fait que, tu sais, l'infirmière auxiliaire peut faire certains soins, puis l'infirmière clinicienne peut aller faire d'autres types de soins. Puis, évidemment, les médecins, résidents, etc., là, parce que, tu sais, les médecins, dans leur formation, ils vont déjà quand même dans les milieux, puis ils sont amenés déjà à prescrire et à prendre en charge certains patients. Donc, on est en contact, là, avec toutes ces personnes-là. C'est sûr que dans les hôpitaux, il y a d'autres types de professionnels aussi, tu sais, tout ce qui est réadaptation, physio, ergo, travailleur social, nutritionniste, qui s'implique dans les dossiers, mais encore plus, je pense, aux soins à domicile. Parce que, tu sais, c'est sûr que le but des soins à domicile, ça reste de garder le patient à domicile le plus longtemps possible. Donc, tu sais, si moi, par exemple, j'arrive un matin, mon patient a chuté, OK, je fais mon évaluation, s'il y a des blessures, etc., mais après, OK, pourquoi il a chuté? Tu sais, as-tu besoin d'un accessoire de marche? Fait que là, finalement, je reviens au bureau en après-midi, je vais voir mon ergothérapeute ou ma physiothérapeute. Tu sais, j'ai eu cette situation-là, ce patient-là. Donc là, souvent, ces patients-là, ben on envoie le professionnel là, en soi à la maison pour aller évaluer, OK, pourquoi il a chuté? Parce qu'il y a des troubles de mobilité, c'est même chose là pour ce qui est nutritionniste, t'sais, le patient il mange pas bien puis tu sais ça empire son problème de santé. Bon ben je fais appel au nutritionniste pour peut-être aller aider le patient à trouver des choses là pour mieux s'alimenter. Même chose pour tous les autres professionnels. Donc oui, de manière générale, c'est je suis pas mal plus en contact avec d'autres professionnels, mais c'est sûr que comme j'ai dit un petit peu, quand je suis à la maison puis que tout va bien puis avec mon patient, ben c'est sûr que c'est moi et mon patient. Si je fais mon évaluation, si tout va bien puis que j'ai pas à faire de démarche avec le médecin ou d'autres professionnels, ben j'ai fait ce que j'avais à faire pour mon patient par moi-même. C'est plus spécifique aux soins à domicile parce que dans les hôpitaux là, c'est sûr que c'est vraiment plus en contact avec les autres professionnels.
Par rapport au mandat d'évaluation, fait que ça reste quand même une tâche qui est cruciale dans ton mandat parce que si jamais justement tu évalues que au niveau du patient, ben il y a un besoin nutritionnel puis que ça demande une expertise spécialisée dans ce secteur-là, ben c'est comme toi qui vas faire l'évaluation globale de la situation pour ensuite référer puis travailler en continuité dans ton équipe de santé là.
C'est une partie de ma profession que j'aime beaucoup aussi. On touche vraiment à plein de choses. Puis oui, à l'hôpital, mais encore plus à la maison, parce qu'à la maison, quand tu pars de chez ton patient, tu veux que ce soit sécuritaire, puis que le patient soit pas à risque de se blesser ou peu importe. Tu veux pas qu'il y ait un risque pour sa sécurité jusqu'à la prochaine fois que tu reviennes à la maison. Donc, c'est sûr que toi, oui, je fais mon évaluation spécifique, on va dire, ben on parlait tantôt de suivi cardiaque, bon, ben je fais mon suivi cardiaque, mais c'est sûr que j'y demande souvent d'autres petites questions de travers. Tu sais, votre alimentation, ça va-tu? Tu sais, vos selles, vos urines, ça va-tu? Votre mobilité, tu sais, on devient, c'est sûr, quand même à reposer des petites questions au travers pour être sûr que notre patient, tu sais, sécuritaire à la maison. Puis oui, après ça, effectivement, on va rechercher de l'aide, mais c'est ce qui est le fun de la profession parce qu'on a de la formation dans un petit peu de tout. Donc, c'est ce que moi, je trouve passionnant, là. Puis que finalement, tu sais, je disais tantôt qu'à la base, j'aurais aimé ça m'en aller en réadaptation, mais maintenant que je suis infirmière, je voudrais plus jamais y aller. Pas que j'aime pas ça, mais sauf que j'aime bien mieux avoir accès à tout.
Vous êtes un peu une porte d'entrée pour les autres types d'expertise. C'est justement, en faisant ton évaluation, si tu décèles plusieurs autres problématiques, dans le fond, c'est un peu toi la porte d'entrée pour faire rentrer, exemple, la nutritionniste, la travailleuse sociale.
Oui, puis non. C'est sûr que de manière générale, à plus grand que 50%, les soins infirmiers, on est souvent les premiers à rentrer dans le dossier. Mais ça arrive que c'est le contraire, que ça va être la travailleuse sociale qui est déjà au dossier. Puis là, ah, tu sais, il me semble que le patient, il est jambes enflées, puis il mange pas bien, puis il tombe. Fait que là, c'est elle qui va venir nous en reparler par la suite. Mais effectivement, par contre, c'est souvent l'infirmière qui va y aller en premier avant les autres professionnels. Tu sais, mettons, la travailleuse sociale, elle va venir nous le référer, elle va nous dire, hey, peut-être que j'aimerais ça que tu ailles faire une petite évaluation. Fait que là, ben, nous, on va faire une évaluation, oui, effectivement, plus globale. Puis là, après ça, on va peut-être plus cibler c'est quoi les besoins là, pour le patient, c'est quoi qu'on veut comme professionnel exactement. C'est quand même du cas par cas, mais oui, quand même, l'infirmière, c'est sûr qu'à cause qu'on a des formations plus larges, dans un petit peu de tout, ça nous amène, oui, plus souvent à y aller en premier.
Tantôt, t'as parlé là, par rapport diplôme spécialisé ou diplôme supérieur. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement ou promotion outre ces formations-là un petit peu plus qualifiantes?
C'est effectivement très large, là, surtout au Québec. D'abord, il y a la recherche. Il y a beaucoup quand même de gens que ça les intéresse là, d'aller faire de la recherche là, en soins infirmiers, beaucoup à l'Université Laval, l'Université McGill. C'est des grosses universités qui ont beaucoup de programmes de recherche en soins infirmiers. Donc, encore là, c'est que tu fais souvent, après ton baccalauréat, tu peux aller refaire un programme de maîtrise spécialisé en recherche. Exemple, l'obésité chez l'enfant. Bon, moi, ça, c'est un programme qui m'aurait super intéressé, puis j'aurais voulu faire une recherche là-dessus. Bon, pourquoi, c'est quoi les causes, les facteurs, etc. Donc, j'aurais pu aller faire un programme de recherche là-dessus. Mais tu sais, il y en a, là, c'est très, très, très large. Là, ça peut être dans plein de domaines. Sinon, être professeur, avec un baccalauréat, on peut être prof, autant au cégep, au DEP pour l'infirmière auxiliaire, ou même à l'université, là, mettons qu'on s'est spécialisé dans un domaine. J'ai pour ma part un petit peu été, ben, j'étais pas professeur, j'étais pas chargée de cours. J'étais superviseur, là, des petits groupes d'étudiants dans un apprentissage de cours à l'Université Laval. Donc, sans être chargée de cours, j'ai quand même fait ça. Mais bref, professeur reste une porte là, de sortie. Sinon, c'est sûr, ben, je l'ai dit un petit peu tantôt, là, tu sais, on peut aller faire des cours de gestion pour être vraiment gestionnaire ou assistante, là, sur les étages. Donc, ça ramène, c'est sûr, plus à la gestion des employés, c'est faire descendre l'information de l'employeur parce que, tu sais, c'est toutes des grosses organisations qu'il y a beaucoup de gens. Donc, des fois, l'information part de l'employeur, mais tu sais, il faut que ça descende. Puis, de la manière que ça descend, ben, souvent, c'est les gestionnaires qui vont aller s'occuper de ça. Puis, ben, IPS, infirmière praticienne spécialisée. Je peux quand même préciser, par contre, que pour être infirmière praticienne spécialisée, il faut avoir acquis 1680 heures d'exercice dans le domaine que tu veux t'en aller. Donc, tu sais, tantôt, j'ai parlé que oui, c'est de manière générale en GMF pour l'instant, mais il y a certains milieux comme la pédiatrie, la psychiatrie. Donc, il faut que tu aies travaillé, par exemple, 1680 heures comme infirmière dans la psychiatrie, dans la pédiatrie ou dans la première ligne, là, selon ce que tu veux t'en aller.
Au niveau des milieux dans lesquels une infirmière peut travailler, on a parlé des hôpitaux, on a parlé des CLSC, soins à domicile. Ça serait quoi les autres milieux dans lesquels une infirmière qui sort, exemple, de son bac ou de sa technique pourrait aller postuler?
quand même beaucoup d'autres milieux, les pharmacies, de plus en plus de pharmacies qui s'engagent des infirmières là, pour travailler pour eux. Des infirmières qui vont aller plus gérer qu'est-ce qui est vaccination, t'sais, suivi, mais suivi vraiment de maladies générales et stables. Sinon, infirmières dans le Nord, pour des filles qui aimeraient ça quand même un petit peu sortir de leur zone de confort, voyager un petit peu, t'sais, dans le Nord du Québec, là, c'est vraiment une compagnie qui engage pour aller travailler là-bas là, avec la clientèle là, qui est vraiment éloigné. Sinon, aide humanitaire pour là, voyager peut-être un petit peu plus loin que le Québec, donc dans le monde, pour aller offrir de l'aide ailleurs. Dans les écoles, toutes les écoles ont une infirmière à titre minimum, une, là, tout dépendant de la grosseur de l'école. Souvent, c'est affilié au CLSC, mais il y a certaines écoles privées là, qui engagent leur propre infirmière. Dans les pénitenciers aussi, j'ai certaines collègues qui ont travaillé au pénitencier de Donnacona. T'es engagé par le pénitencier, donc ça reste privé, mais clientèle quand même marginale, puis super intéressant là au niveau des suivis. Il y a Emma Québec aussi qui engage de plus en plus d'infirmières. Ben oui, pour ses collègues de sang, mais aussi pour le suivi là des patients qui font le don de plasma, les évaluations des patients là qui ont des problèmes là au niveau du sang. J'avais l'armée canadienne aussi. C'est quelque chose que j'avais regardé là de mon côté quand j'ai voulu un nouveau défi. Je peux être engagée par l'armée canadienne au civil, c'est-à-dire comme, tu sais, j'aurais pas besoin de faire la grosse formation militaire là, que de 12 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, tu peux être engagée comme civil, mais tu peux aussi être engagée comme infirmière militaire, mais c'est ça, ça amène quand même à faire le 12 semaines de formation, puis à aller en mission, là, évidemment, là, pour soigner les militaires là, blessés.
Au niveau du placement, ben t'en as un petit peu glissé un mot là, tu sais, par rapport au contexte de main-d'œuvre actuel en santé. Qu'est-ce que les jeunes diplômés peuvent s'attendre comme placement là? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que ça prend du temps un petit peu?
Normalement, c'est sûr que c'est très rapide. On est dans un contexte qui manque beaucoup de gens dans le milieu de la santé, donc c'est pas très difficile de se placer. Par contre, tu vas pas nécessairement commencer dans le milieu que tu veux, sur le corps que tu veux. Ce qui a facilité, par exemple, pour moi, puis c'est comme ça pour la majorité des programmes maintenant, quand tu fais un an d'études en soins infirmiers, tu peux travailler comme préposé aux bénéficiaires. Donc déjà, tu peux être engagé par un employeur X, là, puis tu peux travailler comme préposé aux bénéficiaires. Puis tu peux même, après ça, pendant l'année, pendant ta deuxième année, continuer à travailler comme préposé. Là, après, suite à la deuxième année, tu peux être, on appelle ça, être externe en soins infirmiers. Donc, ça ressemble un peu aux tâches d'une infirmière auxiliaire. Donc, tu sais, tu peux faire certaines tâches, mais tu sais, t'es pas autonome, là, tu sais, t'as pas fini ta formation, donc t'es vraiment sous la supervision d'une infirmière tout l'été. Donc, souvent, t'es engagé dans un milieu, tu restes dans le même milieu tout l'été, puis t'es sous la supervision souvent de la même infirmière, même là, tout l'été, pour ce programme-là. Puis ce qui amène par la suite, après la troisième année, vu que t'as déjà été engagé pour eux, t'as déjà été évalué, ils sont déjà comme au courant de tes compétences, ben ils te font une promesse d'embauche pour l'année qui suit comme infirmière. C'est sûr que là, après ça, la troisième été, là, avant d'avoir l'examen de l'ordre, on travaille comme candidate à la profession infirmière. Fait qu'un petit peu le même principe, on peut faire, je veux dire, 80% des tâches infirmières, mais il faut toujours être supervisé par une infirmière jusqu'à ce qu'on ait notre titre officiel, là, notre permis de l'ordre qui dit « OK, cette infirmière-là a les compétences pour travailler toute seule ». Donc, c'est sûr que ça facilite. Honnêtement, je peux sincèrement pas dire que c'est difficile d'être placé pour l'instant. C'est juste que c'est ça. Ça revient au fait de pas être nécessairement dans le milieu que tu veux. C'est la seule petite chose, là, des fois, qui est plate puis qu'il faut accepter là, en commençant.
Tu dirais que, mettons, la proportion homme-femme dans le milieu, ça ressemble à quoi?
De plus en plus d'hommes, évidemment. C'est sûr que ça reste majoritairement femmes, mais de plus en plus d'hommes. Là, à chaque année, j'ai de plus en plus de collègues masculins. Là. C'est vraiment le fun et normal là, pour moi, là, tu sais, qu'un homme soit dans le milieu de la santé. Là, tu sais, pourquoi pas? Que non, de plus en plus. J'ai pas un pourcentage, là, mais clairement, tu sais, de plus en plus avec les années, tu sais, les nouveaux embauchés, les stagiaires, de plus en plus, là, il y a des hommes dans le milieu.
Merci beaucoup. En fait, c'est ce qui conclut nos petites questions qu'on avait pour toi. Un grand merci d'avoir participé là, à notre projet.
Merci!
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût!